Messieurs les producteurs de cinéma sonore, regardez-moi, regardez-moi encore. La tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette.
Et voilà, bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin dans la matinale, on va parler de la fête de la batellerie 2023. Ça se déroule ce week-end à Longuenel. Ce matin dans les studios, trois invités pour parler de la fête de la batellerie 2023 qui se déroule le 2 juillet à Longuenel, avec plein d'animations, avec des sorties sur l'eau, enfin on en parlera tout au long de l'émission. Avec moi j'ai Sacha Sakharov, bonjour, bienvenue. Bienvenue, vous êtes propriétaire d'un bateau, d'une péniche qui s'est installée à Longuenel. On en parlera au cours de l'émission. On a Sergio. Alors Sergio, aujourd'hui, habituellement, on le connaît sur les ondes de Graphite pour Retour aux Pyramides.
C'est ça, exactement.
Et là, c'est en mode secret, en mode boulot.
C'est le travail, le professionnel, puisque j'ai la chance de travailler sur cette fête depuis quelques années maintenant.
T'es chargé de communication à Longuenel.
Voilà, et également sur le projet culturel maintenant. Depuis 2 ans, il y a une refonte des services et tout ce qui est culture et com, voilà.
Et monsieur le maire, monsieur Daniel Bordelais, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
On ne s'était jamais rencontrés, je crois que vous n'étiez jamais venu dans les studios. On est très content de vous accueillir aujourd'hui.
Je suis venu il y a très longtemps. Enfin, pas dans les studios, mais je suis venu à un débat ici.
D'accord, ok. C'est quoi les élections législatives,
municipales ? Régionales.
Régionales. Vous êtes maire PCF, c'est ça, de Longueuil, ouais.
C'est ça.
Depuis 95, on fait un petit tour sur vous, un petit peu votre vie, votre parcours, comment vous êtes arrivé à Longueuil-Anel. Vous êtes natif de Longueuil.
Je suis né à Longueuil-Anel, avenue des Tilleuls à cette époque-là. Maintenant, c'est avenue du Général de Gaulle. Donc, j'ai fait toute ma jeunesse, mes écoles à Longueuil, et je suis donc devenu maire en 1995. Après, et donc professionnellement, j'ai travaillé chez Caisse Poquelin, donc à Marny. Après, j'ai terminé à Crépy. J'ai à peu près 37 ans de syndicalisme à la CGT chez Poquelin. Voilà. Et donc, depuis 1995, j'ai l'honneur de diriger plusieurs équipes, bien sûr. Et maintenant, on est une petite entreprise avec une bonne trentaine de salariés à Longueuil.
Alors, pour nous, Longueuil, c'est LA, évidemment. Hein, c'est notre Los Angeles.
La grande ville, voilà. Exactement.
On venait très régulièrement au musée des Bateliers. On est également du côté... Il y a eu Péniche, le groupe Péniche, on écoutera tout à l'heure, qui est venu enregistrer un clip sur l'écluse. On est du côté du bateau de Nico Alexia qui s'appelle Urban Boat. Du coup, maintenant, un nouveau bateau dont on est très content d'apprendre l'existence. C'est quoi l'évolution depuis 95 et Longuenel? Du coup, toute cette culture qui s'est mise en place. Au départ, j'imagine qu'il y avait une culture batelière très forte. Les bateliers commencent à disparaître, c'est ça un petit peu l'histoire?
Oui, on a une culture batelière, c'est ce qu'on parlait juste avant. À Longueuil, il y avait une animation continuelle. Il y avait plus d'habitants à Longueuil qu'à Tourotte. C'était vraiment un pôle important de la batellerie. Moi, quand j'étais gamin, il passait encore beaucoup de péniches. Aujourd'hui, il en passe 5-6 par jour, à peu près. Donc, cette culture, bien entendu, aujourd'hui, malheureusement, une génération de mariniers s'en va. Mais je veux dire, cette culture, elle est restée longtemps. Et puis les élus municipaux avant moi, les équipes avant moi, mais au niveau de la commune, ont voulu faire de Longueuil une vraie cité de la batellerie. Et donc il y a eu autour de ça, bien entendu, le développement du musée avec la cité. Et puis la volonté aussi municipale, ça a été de développer la culture qui n'existait pas beaucoup ou très peu ou pas du tout même avant. Donc c'est pour ça qu'on a créé, on en parlait avec Sergio en venant, je pense qu'au niveau service public, on a énormément développé, ça nous coûte ça, en fonctionnement, ça nous pénalise un peu sur l'investissement, mais c'est une volonté politique, et moi je veux qu'on ait un service public fort et un service culturel qui fonctionne aussi, et donc ça nous permet aussi de faire des activités quasiment tout le long de l'année.
Ouais, des investissements, parfois on n'y pense pas trop, mais c'est par exemple racheter des terrains pour que les bus puissent faire demi-tour dans la rue de la Cité des Bateliers, ce genre de choses, pour peut-être l'agrandir. Je crois qu'il y a un autre terrain qui a été
aussi. D'ailleurs, j'ai une réunion vendredi avec la communauté de communes. où on va finaliser l'agrandissement. Je tenais aussi à dire que donc en 97, enfin puis le musée a été inauguré en 2000, il y a eu une volonté politique de tous les élus de la commune et notamment du président Monsieur Carvalho, hein, qui voulait vraiment développer cette cité. On a aussi dans le cadre du canal Seine-Nord Europe qui va arriver, on a un projet aussi de port fluvial sur Longueuil.
Hein. Ouais, ça va un peu ça va redynamiser ou restructurer un petit peu le paysage, cette histoire de Grand Canal.
Oui, nous, au niveau urbanisme, on n'est pas trop impacté, étant donné que
c'est à Paimpré, c'est ça le.
Oui, ça passe beaucoup dans les champs. Mais par contre, on va profiter donc de cette arrivée pour développer le tourisme, hein, le fluvial tourisme. Et donc, et l'Arc est d'accord aussi pour aider et permettre justement la création d'un port qui est important parce que le port de Compiègne est complètement saturé.
Souvent, on a Rémi Delmette, hein, le directeur des musées, qui vient nous parler.
Monsieur Batellerie.
Qui vient nous parler de tout ça et de tous les événements qu'il y a autour, puisqu'également ils font les événements de la région, ils font la fête de la science, enfin, il y a plein d'activités à la Cité des Bateliers. Là, cette année, on a d'autres paroles. On va vous poser un petit peu des questions justement sur l'activité de Tourotte. Comment ça se passe aujourd'hui Tourotte? C'est quoi? C'est beaucoup de visiteurs extérieurs en termes de tourisme ou ils s'arrêtent ou juste ils passent? Alors, vous avez acheté un bateau.
C'est Longueuil-Yanel, c'est pas tout.
Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Longueuil-Yanel.
Oui, non, nous, aujourd'hui, il y a l'escapade. L'escapade, c'est à peu près...
C'est un gros investissement, ça.
C'est un investissement payé par la communauté de communes. Okay. Hein, enfin, on a eu des aides européennes et des aides de la région.
Donc la com, c'est tout rote.
C'est la communauté de communes des deux vallées. Hein. Donc, nous, c'est l'escapade, c'était 12 000 personnes qui ont voyagé sur l'escapade. Soit des croisières sans repas ou des croisières avec repas. Il y a eu un ralentissement avec le Covid, mais on a plus de 10 000 personnes qui viennent visiter le musée des Batelleries. C'est pour ça qu'on veut le développer, pour permettre aussi, bien entendu, qu'il y ait plus de visiteurs. Il y a aussi, bien sûr, les restaurateurs qui peuvent bénéficier. Donc, on est en train de réfléchir aussi, nous, à peut-être l'aménagement aussi de l'avenue de la Canonnière pour qu'on ait que ça soit pour les gens qui puissent se balader en toute sécurité. Donc, nous, c'est des gens qui viennent, qui consomment parce que sur le territoire de la communauté de communes, c'est important pour nous et on continue de développer.
Ouais, c'est vrai qu'un petit coup le soir au Jean Barthes, c'est très bien.
Il y a le Jean Barthes, il y a aussi maintenant une petite épicerie à côté. Voilà. Et puis, je pense que l'escapade, c'est les gens qui... Enfin, nous, on l'a fait il n'y a pas longtemps avec les élus. C'est vraiment une balade. C'est super. C'est électrique. Hein, il n'y a pas un bruit. On voit le paysage d'une autre façon. Et puis, on mange tranquille. Voilà. On peut faire aussi des spectacles comme ça a déjà été fait.
Sergio, tu nous parles un petit peu de l'escapade, justement, de ces voyages qui vont avoir lieu ce week-end.
Alors, ce week-end, justement, donc l'escapade, comme le disait M. Beurdelet, c'est géré par la communauté de communes des deux vallées, mais partie prenante de l'événement, ils proposent des croisières à prix réduit. Donc pour les adultes, on sera à 6 € la croisière et 4 € pour les enfants. Ça permet effectivement de redécouvrir le paysage et d'ailleurs de découvrir ou redécouvrir l'ancienne piscine de Compiègne. Oui. Il y a eu un bel engouement sur le street art en découvrant, c'était un vrai spot pour les graffeurs aussi. Sur Longueuil, on a quelques projets graphes dans le même sens, mais ça permet aussi de redécouvrir un peu le paysage qu'on pense connaître, on passe devant tous les jours, mais on ne connaît pas. Donc il y aura ça, il y aura des visites du musée bien sûr à prix réduit, puisque le but c'est quand même sur une journée, s'il fait beau, on peut espérer accueillir entre 5 et 8 000 visiteurs pour une ville de 2600 habitants. Donc
c'est pas mal.
C'est pas mal. Il y a une chose aussi importante, c'est que la journée est séparée vraiment. Il y a deux temps forts. La matinée, on est sur tout ce qui est traditionnel, puisqu'à la base, on parle aussi de pardon de la Batellerie, qui a une connotation religieuse. Le premier, c'était dans les années 70, où m'arrêtait M. Beurdelet. 78, si j'ai des bêtises. Donc des anciens mariniers ont voulu importer cette tradition un peu plus bretonne à la base, le pardon. Conflans le faisait, ils se sont dit, nous aussi, on a une belle cité.
Des bateaux avec des petits fanions.
Pavoisés, exactement. Non, tout à fait, qui défile, il y a un défilé sur le canal, passage des écluses, klaxon, etc. Il y a des défilés.
Normalement, ils bénissent les bateaux.
Exactement.
Oui, il y a une messe d'ailleurs sur la péniche.
Sur le bateau chapelle, tout à fait, qui sera le Flore cette année. Donc il y avait ça dans les années 70. L'équipe arrivée en 95, dont M. Beurdelet enfin, menait déjà cette équipe, s'en dit qu'il serait dommage de ne pas réunir les gens d'Aterre, les gens d'abord, parce que Longueuil a changé. Le métier de marinier s'est un petit peu essoufflé. Il fallait un peu garder cette tradition tout tout en accueillant tout le monde, que tout le monde se sente uni sur la fête. Donc le matin, fête traditionnelle, jusque midi, jusqu'à la revue des drapeaux, il y a des dépôts de gerbes, tout ce qui est traditionnel et cérémoniel. Et l'après-midi, fête populaire, voilà.
Plus familiale.
Voilà, plus familiale, mais aussi l'idée, c'était de retrouver un peu la fête qui pouvait avoir lieu dans les années 50, avec les fameux 30 débits de boissons que comptait Longueuil-Annel, les guinguettes, les salles de spectacle, etc. Ce sont des lieux qui existent toujours, certains sont des habitations, d'autres sont devenus des salles polyvalentes. Je pense à la salle Marius Leclerc qui était un dancing, qui a été un cinéma, qui a eu mille vies, on va dire. Et l'idée, c'est de retrouver un peu cet engouement l'espace d'une journée. Cet engouement, on le retrouve sur Familial, tu l'as dit. Il y aura des concerts. Je vais brosser vite fait le programme, mais il est disponible sur la page Facebook de Longueuil et sur le site de Longueuil de toute façon. Il y aura 3 concerts, donc rock, funky jazz avec une fanfare qui vient d'Amiens qui est très sympa. Et on finit avec un duo années 80. Ça plaît toujours les années 80. Bien l'idée, sûr. C'est de réunir tout le monde. Des spectacles de rue, là-dessus, on s'appuie sur des compagnies locales, puisque M. Beurdelet est farouchement attaché à Feu et à la Picardie, qui n'existe plus, mais donc on essaye de rester sur ces artistes picards, et on a beaucoup de talents. Il y a Sacha qui est avec nous et qui fait partie maintenant des talents picards, même s'il vient d'Île-de-France à la base, si je ne dis pas de bêtises, on l'a adopté.
D'Alsace, en fait.
Mais ça, d'Alsace. Bon, on restera. Donc il y aura la compagnie Compte là-dessus qui sera là. Je pense que tu les connais très bien, Olivier Caria et Corentin qui viendra, qui est Corentin, lui, et ça va faire 3 ou 4 fêtes de la batellerie qu'il fait d'affilée, puisqu'il est dans plein de projets différents.
Là, sur la fête des bateliers, sur le matin, le côté plus traditionnel, c'est des bateliers qui viennent de loin. C'est quoi en fait le public ?
Cette année, on sait qu'il y aura un bus qui vient de Conflans, et il y en a aussi souvent un qui vient de Dunkerque, enfin du Nord, quoi. Hein, mais il y a des gens qui viennent avec leur véhicule, hein, Saint-Mamé. Ça leur permet aussi à tous ces anciens mariniers de se retrouver autour d'un repas. Pour appuyer ce que Sergio vient de dire, quand on est arrivé en 95, il n'y avait que la fête traditionnelle, il y avait la messe, et après, il y avait un repas entre eux à la salle des fêtes. Moi, je leur ai dit, si vous continuez, dans quelques années, ça n'existe plus. Et il faut aussi faire connaître votre métier. Nous, ça nous permettait de faire connaître la commune, parce qu'on traversait la commune sur l'ancienne nationale, et personne ne savait qu'il y avait peut-être un canal avec une écluse. Voilà. Et donc, c'était la volonté de l'équipe en place en 95. Moi, je voulais vraiment que cette fête, et c'est pour ça qu'on en a fait une fête, parce que une fête populaire, parce que aussi nous, on veut que ça soit pour les familles, surtout en cette période d'inflation, que les gens viennent, puissent boire un verre, que ça leur coûte pas trop cher, qu'ils viennent manger des moules, hein, des frites moules, c'est un repas qui est pas trop cher, voilà. Et puis qu'ils puissent assister à des spectacles gratuitement.
C'est quoi l'équipe d'organisation derrière, puisque j'imagine pour accueillir 8000 personnes, tripler ou quadripler le village, il y a les équipes municipales, mais c'est quoi, il y a une association?
Il y a une association qui s'occupe de tout ce qui est la restauration, hein, c'est Longueuil en fait, beaucoup d'élus bien sûr qui sont mobilisés ce jour-là, avec, et puis bien sûr les équipes des agents, hein, qui ont travaillé bien en amont. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est les agents du service technique qui ont commencé déjà là, à travailler, qui vont travailler jusque tout le week-end et qui vont travailler après. C'est pour eux 2 semaines difficiles. Donc, c'est pour la commune beaucoup, beaucoup. Il y a un engagement financier, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail de toutes parts. Et puis, au niveau finance, je tenais à le dire, on peut aussi remercier les partenaires, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire cette fête. Hein, je parle du département. Et puis aussi de la région Picardie, et surtout de la communauté de communes qui nous donne une grosse subvention.
La VNF, les voies navigables de France ?
Non,
ils vous prêtent la voie d'eau, quoi.
non, mais ils n'ont pas de sous, VNF.
c'est compliqué d'un point de vue sécurité d'accueillir autant de public, parce qu'on sait, quand on fait un événement, même avec peu de public, des fois la sécurité c'est galère. Alors là, en plus de ça, entouré d'eau, comment vous faites pas de cheveux blancs
Non, si. Je suis content quand ça c'est terminé et bien terminé. Non, parce que le problème, enfin vous, si vous connaissez la situation de l'avenue de la Canonnière, c'est que c'est sur une seule rue,
hein,
et donc c'est il y a les secouristes de l'Oise qui sont là, mais j'ai toujours peur bien sûr qu'il y ait un accident, mais aussi qu'il y ait un incendie, tout ça, et il faut que les pompiers puissent avoir accès.
Ouais.
Et le gros souci, c'est ça, parce qu'on manque de largeur. Si on avait le double de largeur, on pourrait faire déjà aussi autre chose, et puis au niveau sécurité, on serait nettement mieux. Mais bon, on fait en sorte que ça se passe bien. On est très très prudent et jusqu'à maintenant, croisons les doigts, touchons votre beau, votre belle table pour dire que tout va bien se passer.
Sacha, vous, vous êtes jeune batelier, c'est ça?
Oui, en quelque sorte. Oui,
ça fait combien de temps que vous êtes sur la péniche?
Ah, ça doit faire ça fait 2 ans à peu près.
Vous aviez tout le passif un peu des mariniers, de la vie de marinier, de toute cette vie au bord de l'eau, au bord des canaux.
Ah non, pas du tout. Enfin, en fait, j'ai eu une première approche des bateaux quand je vivais à Strasbourg, donc dont je suis originaire. Il y a une région, enfin tout un endroit où vivent des gens sur l'eau, des péniches habitations. Et puis j'ai eu des.
C'est la vieille France, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le quartier de la vieille France.
Il y a la petite France, mais ouais, petite France, ouais. Non, il y a des bateaux mouches, c'est assez difficile d'accès. Non, c'est plutôt dans un autre endroit, un peu plus près du Rhin. Et en fait, voilà, ça c'était il y a 10-15 ans que j'ai eu un peu une accroche avec cette vie sur l'eau. Et puis en fait, là, c'est plutôt un bateau voisin, l'Urban Boat d'ailleurs, qui m'a parlé de ce bateau qui était à vendre. En fait, on s'était rencontrés, je suis venu rendre visite, et puis il y avait ce bateau à Longueuil qu'on a remarqué. Puis on a mis du temps et avec ma compagne à se demander si on se lançait ou pas, parce que c'est toujours un peu, c'est une responsabilité après en fait. Vous disiez propriétaire d'un bateau, c'est surtout aussi propriétaire d'accord. Mais en fait, maintenant, c'est à dire qu'on est responsable de ce ce gros animal, on disait, c'est comme une grosse baleine, enfin une espèce de, il faut le gérer, après il faut l'entretenir, et donc au début c'était un peu de stress, et en fait j'ai voulu apprendre, hein, parce que d'ailleurs moi je suis un autodidacte, hein, dans ma pratique, donc c'est vraiment ce truc d'avoir envie d'apprendre, c'est quelque chose que je cultive toujours, et puis donc moi je me suis vraiment mis je suis allé vers les mariniers, c'est-à-dire la personne qui m'a vendu le bateau qui vient de partir à la retraite, je lui ai demandé, j'aimerais bien partir avec vous pour voir comment ça se passe la navigation, juste les derniers mois avant qu'il parte à la retraite. Et puis il m'a emmené, on est allé jusqu'à Conflans, on est revenu, donc j'étais déjà aussi sur la Seine, etc.
Il y a un côté de passation chez les mariniers, les plus vieux qui passent leur métier, leur bateau aussi, ce qui passe un peu leur vie, quoi.
Ah, exactement, et puis j'ai des discussions. Qui me font penser, je sais pas, en Alsace par exemple d'où je viens aussi, c'est quand je discute avec certains anciens agriculteurs qui me parlent du temps d'avant ou de comment ils faisaient. On parle de plein de choses qui disparaissent. Par exemple, je pensais à la distillation, des choses comme ça, les bouilleurs de cru. Enfin, j'ai des discussions.
Excellent sujet. Excellent sujet.
Alors, ça fait partie du patrimoine aussi. Mais c'est, quand je discute avec des mariniers, je me rends compte c'est des choses, on peut vraiment pas trouver ces informations sur Internet, dans les livres. Enfin, même si on croit pouvoir tout trouver, en fait, c'est pas vrai. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont de bouche à oreille et qui ne se transmettent que sur l'eau, en quelque sorte. Et des termes, une terminologie déjà pour parler du bateau et de ce qu'on voulait faire avec. On a dû apprendre un lexique, au moins une trentaine, voire plus de mots pour pouvoir bien se comprendre. Au chantier aussi où on a emmené notre bateau. Et donc voilà, nous on a voulu apprendre un peu comme si on apprenait une nouvelle langue, qu'on était dans une nouvelle contrée. Et puis voilà, ça se fait progressivement.
Là, avec Zoé, qui est le capitaine du bateau? Qui c'est qui conduit? Qui c'est qui est pilote? Je crois qu'on dit piloter un bateau plutôt que conduire un bateau.
Oui. Pour l'instant, c'est moi, parce que j'ai un peu un attrait. Disons que voilà, depuis que je suis gamin, j'ai toujours voulu. J'ai passé mon permis moto, mon permis voiture.
C'est un peu plus grand là pour les créneaux. Hein.
Ouais, voilà.
C'est pas pareil, ouais, effectivement.
Mais ça me convient bien parce que disons que quand j'étais tout jeune, comme ça arrive, hein, on aime bien essayer d'aller vite avec ma première mobylette. Et puis en fait, après, maintenant, au contraire, ça me fait vraiment plaisir, cette lenteur et cette tranquillité. C'est vraiment agréable. Hein. On va pas à plus de 10 km/h, hein, avec un bateau comme ça. C'est vraiment agréable. C'est ce qui me plaît.
Et ben, on en parlera juste après, un extrait de la programmation de Graphite. On part direction la Normandie avec le titre Le Havre. On fallait bien commencer cette émission avec le groupe Péniche qu'on a reçu plein de fois et qui ont enregistré un clip que vous pouvez retrouver sur les réseaux, qui a été enregistré à Longueuil. We'll be right back. Voilà, pour bien vous réveiller le matin, Péniche avec ce titre Le Havre. On parle toujours de la fête de la Batellerie qui se déroulera ce week-end. Vous pourrez également retrouver la Station Curieuse avec Sacha et Zoé pour la Station Curieuse. Bah justement, on va en parler de cette Station Curieuse. Alors nous, on était assez étonnés puisque évidemment, on a déposé le nom Radio Curieuse.
Et oui.
Donc on va demander les royalties de ce nom. Mais non, très bien, Station Curieuse en plus de ça, avec plein de choses, de making, un petit peu de hacking citoyen, on va dire. C'est quoi le projet du coup de cette Station Curieuse?
Bah, justement, curieuse, j'ai découvert en venant ici, en cherchant un petit peu le lien là, pour écouter les podcasts, et j'ai découvert qu'il y avait ce terme de curieux ici, donc j'étais...
Ça matche parfaitement.
Voilà. Et puis d'ailleurs aussi, je voulais dire que quand je suis arrivé dans la région, j'ai été ravi, ça m'a pris un petit peu de temps, mais de tomber sur Radio Graphite entre deux fréquences, voilà, dans ma voiture, parce que je capte pas toujours bien, mais de tomber sur une radio locale et j'ai envie de dire alternative aussi, enfin, et puis là je découvre qu'en fait elle est
curieuse,
voilà, curieuse, et puis en fait qu'elle est cachée, enfin qu'elle est nichée dans le campus universitaire, donc ça m'étonne pas non plus, enfin voilà, pour moi c'est un peu cette innovation, c'est très chouette et éclectique ce que j'ai entendu, donc déjà je suis très content d'être là, et donc oui, on a cherché un petit peu, on a mis un peu de temps à... mais c'était pour disons faire la symbiose entre tout ce qu'on fait. Alors, parce que déjà, on est deux, ma compagne et moi-même, donc Zoé Gerter, qui est designer, et puis moi-même, alors je suis médiateur scientifique, je suis aussi designer à ma façon, mais plutôt dans une face au service de mes animations scientifiques, de mes installations, et de ce que je fais, qui s'apparente aussi à une sorte de poésie scientifique, ou pour le jeune public, en fait, c'est-à-dire stimuler. Moi, c'est vraiment justement rendre curieux, apporter, stimuler la curiosité chez les plus jeunes, voilà, qui se posent des questions. C'est aussi une tradition un peu d'éducation populaire. Que j'ai commencé il y a des années d'ailleurs je travaillais avec l'association Les Petits Débrouillards, qui sont vraiment dans cette démarche, donc qui ont des camions scientifiques qui se déplacent un peu partout.
C'est le côté plus écologique que le camion de Jamy et...
C'est ça, oui, ça fait un peu C'est pas sorcier effectivement.
Ouais. Et c'était aussi, ça permettait de dispatcher, d'être sur le terrain, alors on pouvait s'installer sur la place publique dans un quartier, n'importe où, alors en banlieue de Paris pour ma part, parce que donc après l'Alsace d'où je viens, j'ai vécu à Paris pendant 7-8 ans, et puis en fait du coup tout Paris, et puis le pourtour, on a travaillé avec Les Petits Débrouillards à faire des animations scientifiques, à faire venir la science auprès des publics, parfois éloignés, donc ça peut être toutes sortes de situations, hein, dans une médiathèque, dans un lieu qui nous accueille, mais aussi sur une place publique.
Donc là quand même le but c'est que le bateau aille de ville en ville, de village en village, de place en place?
Oui, alors ce serait formidable. On va voir comment ça va se passer. Déjà, quand on a un bateau, on ne peut pas aller partout non plus. Déjà, on a un tracé. On peut regarder la carte fluviale de France ou d'Europe aussi, enfin, voir où est-ce qu'on peut aller. Pour l'instant, alors déjà, c'est un petit peu notre terrain de jeu. C'est comme un peu notre tiers-lieu flottant. Alors moi, j'ai eu pour habitude d'investir des lieux temporaires. J'ai été dans une ancienne usine à Strasbourg qui s'appelle La Semencerie, qui était ouverte par des gens des Arts Déco. J'ai été là-bas pendant des années. Ensuite, à Paris, Les Grands Voisins, qui est une expérience formidable, un ancien hôpital civil qui est devenu un lieu d'accueil pour des résidents, des réfugiés, des associations, des artistes. Et c'était vraiment une super expérience qui était éphémère. À chaque fois, voilà, on a la larme à l'œil quand ça s'arrête. Mais en fait, c'est le jeu, c'est que c'est avant que ce soit détruit, avant que ce soit vendu, on bénéficie, voilà, à prix très réduit. Voilà, il y a juste un gardien qui a été mis à l'entrée, l'eau, l'électricité.
Ouais, le but souvent, c'est pour éviter que ça soit squatté et que ça soit plus facile à pouvoir récupérer après. La SNCF l'a fait avec Gare des Mines, l'a fait à Saint-Ouen. Enfin, il y a quelques endroits comme ça qui, en général, sont mis à disposition en bail précaire des associations pour qu'ils fassent des lieux culturels, d'accueil. Alors on a même retrouvé des cantines populaires, enfin plein de choses comme ça, pour ensuite récupérer et puis pour pouvoir le transformer sur un truc plus normal, quoi, entre guillemets.
Oui, exactement. Et puis
du coup, plus lucratif.
Ouais, moi, ça fait donc un certain temps que j'ai appris aussi à chaque fois plier mes bagages, tout mettre, alors même pas dans des cartons, maintenant j'ai un peu l'habitude, j'ai des fly cases, j'ai du matériel, j'ai des étagères que je peux monter, démonter, enfin j'essaie de rationaliser. Et puis ensuite, j'ai dû me déplacer à des anciens ateliers Christophe en banlieue à Saint-Denis, ça s'appelle l'Orfèvrerie. C'est un lieu d'ailleurs où se tourne l'émission Affaires conclues.
D'accord,
on a parlé, les gens qui regardent cette émission m'ont dit ah oui, bah c'est là-bas, cet endroit, une usine tout en briques rouges, c'est très joli. Mais encore une fois, c'était de nouveau que pour 2 ans, et donc à chaque fois, c'est des sauts de puce. Et là, j'en ai eu un peu assez. Et puis avec le confinement, tout ça, comme beaucoup de gens, on s'est posé des questions. Alors je voulais voir, peut-être avoir un terrain, un container, un autobus. Enfin, j'avais pensé à pas mal de choses. Puisque j'ai un peu cette habitude d'aller dans des lieux temporaires, une ancienne usine, enfin. Et puis il y a ce truc de bateau qui a un bateau, c'est un bateau, mais c'est aussi un peu comme un bâtiment flottant. Enfin, c'est
un. Ou un conteneur flottant aussi.
C'est un conteneur
voilà,
flottant.
Voilà, tout à fait. Et donc, pour nous, c'est un peu ça, comme un terrain de jeu, comme un lieu à investir. C'est déjà nos ateliers. Mais comme on est dans une pratique, on n'est pas voilà, nos ateliers, on ferme la porte et puis c'est notre espace privé. C'est que de toute façon, on travaille avec des gens qui viennent nous rendre visite. On est ouvert, on va vers le public aussi. Et puis, on travaille avec des gens. Donc, par exemple, ma compagne est encore beaucoup plus... accoutumée à ça, mais de pouvoir avoir... alors, elle a déjà eu plusieurs fois des stagiaires, là, à bord. C'est un peu ce qui s'est passé pour la vie qui commence, là, sur le bateau. Des personnes qui viennent en stage, des gens qui travaillent avec elle. Ou bien, voilà, maintenant, ce qu'on a aussi comme idée, c'est d'avoir des gens qui viennent en résidence, faire des appels. Alors, on est encore un petit peu en travaux, là, mais c'est des gens qui pourraient venir pendant un mois, par exemple. On peut les héberger. Et puis qui peuvent travailler sur un sujet et faire ensuite une restitution à la fin, voilà, des artistes, des chercheurs, des designers. Et puis bah, pour ma part, c'est le lieu où je peux développer mon activité, mes inventions, toutes mes bidouilles, tout ce que je conçois, les ateliers que je fais un petit peu partout. Alors, quand j'étais à Paris, je me déplaçais avec un vélo électrique parce que la circulation est très compliquée. Maintenant, je suis ici, un peu plus isolé, on va dire. Alors, avec ma voiture, là, j'ai fait un atelier le week-end dernier à Amiens, par exemple. Mais maintenant aussi, ça pourrait être au bord de l'eau, près de là où on est avec le bateau, ou bien se déplacer avec le bateau, selon, voilà, mais rejoindre des événements aussi, comme là, justement, la fête de la batellerie.
Là, c'est qu'est-ce que vous avez proposé le jour de la fête des bateliers, de la fête de la batellerie ?
Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est la première sortie officielle de la station curieuse.
Bah, tout à fait, voilà, c'est le baptême pour nous.
Et c'est le baptême. Et ce qui est très chouette dans ce que tu disais tout à l'heure, tu voulais que les gens vous rejoignent, les stagiaires, etc. Là où on est plutôt content à Longueuil, c'est qu'il y a une structure jeunesse qui a été montée, qui a été lancée par les élus quasiment dès votre arrivée, hein, ce fameux local jeune comme nous on l'appelait, dont j'ai bénéficié étant gamin, dont je me suis occupé par la suite, qui est venu assidûment, etc., qui a toujours eu une appétence pour monter, démonter, voir comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, ce gamin, on va l'appeler Valentin, on lui fait coucou s'il écoute, il fréquente régulièrement tes ateliers, échange. Tu parlais tout à l'heure de partage, de tradition orale, etc., et qui sera présent au jour de la fête de la batellerie pour te filer un coup de main. En gros, pour lui, c'est ton atelier, c'est un Fab Lab pour lui tout seul pour l'instant. Et sinon, mais c'est plutôt chouette aussi de donner envie aux gamins. Je pense aussi que c'était le but de cet ancien local jeune pour monsieur le maire, c'était que les gamins puissent trouver des choses qui leur plaisent.
Activité,
et pourquoi,
sûr, ouais,
et pourquoi pas poursuivre aussi dans cette voie professionnelle. C'est le cas pour Valentin en l'occurrence. Il va l'appliquer dès la rentrée, donc c'est une dimension encore au-delà du simple prestataire qui va venir poser son gros bateau, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est 36 mètres à peu près ton bateau.
Hein. Oui, c'est 36, voilà. 38.
38, voilà, j'en oublie deux.
Standard.
Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver du coup? Impression 3D, des robots, de l'écoute sous-marine, c'est à peu près ça? Comment ça va se passer?
C'est quoi? Alors j'ai mis ce qui était un petit peu le plus...
le plus vendeur.
Voilà, flashy. Non mais en fait, c'est vrai, alors impression 3D, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais parfois, peu de gens ont peut-être vu en vrai ce que c'était, puis ce qu'on peut en faire, parce que donc on parlait de Fab Lab, de plein de choses. Alors pour un petit peu quand même redire, c'est que moi j'aimerais bien en quelque sorte monter un Fab Lab sur le bateau, et j'ai déjà une sorte de membre du Fab Lab qui est donc ce jeune qui vient régulièrement et qui est déjà conquis par cette idée, parce qu'il est il est étudiant en électronique et il veut travailler sur les bateaux dans le développement de systèmes de navigation, etc. Mais là au moins il voit autre chose. Là ça va être de la pédagogie, des choses pour les familles, pour les jeunes. C'est les Fab Labs, c'est des si des gens ne connaissent pas, mais c'est en fait ont entendu peut-être parler, mais en fait c'est les lieux qui ont ouvert un petit peu partout dans le monde. Fab Lab, donc fabrication laboratoire, c'est des lieux où on peut venir fabriquer soi-même avec. Alors, souvent, il y a des imprimantes 3D.
Mais découpeuses laser, des choses pour faire de l'impression. Fin...
Voilà, vinylique, de la programmation, des petits
Arduino.
Des Arduino, ça peut être des robots, des kits. Mais bon, la première période des Fab Labs, on s'est un petit peu forcé à se dire voilà, il y a eu par exemple des subventions en France, etc. Alors, on a investi plein de matériel, il faut que ce soit un peu impressionnant. Il y a pas mal de Fab Labs comme ça où il y a eu des imprimantes 3D, des casques de réalité virtuelle, des plein de choses. Et en fait, parfois, on s'en sert pas tellement. Parfois, les imprimantes 3D, elles servent à faire un porte-clés pour faire une démo. C'est pas. Mais bon, par exemple, nous. Pour la fête de batellerie, on se pose la question à qu'est-ce qu'on pourrait montrer d'intéressant avec l'imprimante 3D. Et par exemple, on va imprimer des hélices de bateaux. Parce qu'une hélice, typiquement, c'est quelque chose de très compliqué à faire à la main à cause de la forme hélicoïdale. Et donc, une hélice, par contre, voilà, en 10 minutes, on peut imprimer une hélice, on peut la voir. Alors, on a fait une sorte de prototype de bateau robotisé qu'on va pouvoir manipuler. Les enfants vont pouvoir en fait être à la barre. Il y a un gouvernail qu'on a imprimé en 3D. On va pouvoir voir ça. Et voilà, j'espère que les anciens pourront voilà, retrouver un peu ou montrer aux plus jeunes comment ça fonctionne à la barre et puis avec la manette de gaz. Mais voilà, en fait, si les gens se posent des questions, comment ça se fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, voilà, l'idée c'est que les gens s'emparent un petit peu de ces questions et donc voilà, impression 3D. Ensuite, j'ai un petit peu proposé des choses. Je disais écoute sous-marine. Donc ça, c'est des micros qu'on peut immerger. D'ailleurs, c'est un modèle, c'est de Cousteau, l'explorateur, qui a inventé des petits micros qu'on peut facilement fabriquer soi-même. Aux années 70, il le faisait.
C'est très tendance, tout ce qui touche au sous-marin en ce moment. Très tendance.
Oui, bah, y a eu l'exploration, autant la plongée... Et les sous-marins, c'est toujours des outils et des appareils qui nous ont aidés. Puis maintenant, c'est des robots qui vont sous la mer. Il y a quand même moins de risques, comme on a vu. Mais en tout cas, nous, on va pouvoir aller en quelque sorte sous l'eau. Alors, avec des hydrophones qu'on va jeter dans l'eau et ensuite des casques à terre qui vont pouvoir nous permettre d'écouter.
Qu'est-ce qu'on entend sous l'eau? On entend le bruit des bateaux, les bruits. C'est quoi le bruit?
Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand on met les casques sur les oreilles, on n'entend rien. Au début, on n'entend absolument rien.
Ça va donner envie aux gens de venir, ça.
Ouais. Vous venez, mais vraiment, on n'entend rien. Et quand on se rend compte qu'est-ce que c'est ce rien, en fait, c'est que sous l'eau, c'est un tout autre environnement. Ouais, et là, on commence à... Par exemple, quand un bateau passe, on n'entend pas du tout le bruit du moteur, le vrombissement. On entend juste l'hélice. Et l'hélice, vraiment... Juste la signature, c'est-à-dire comme si c'était une hélice qui fendait l'air.
Ouais, c'est comme ça qu'ils font pour repérer les sous-marins et qu'ils arrivent à détecter quel sous-marin c'est, juste avec le bruit.
Exactement, on peut compter le nombre de pales, on peut reconnaître s'il y a un ou deux bateaux ou autres véhicules. Et donc, après, une fois qu'on est dans cette perception, on commence à entendre d'autres choses. Et puis là, j'entendais de l'eau couler, par exemple, il n'y a pas longtemps. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'était que cette eau qui coule continuellement? En fait, c'est l'écluse. Mais qui est quand même à plus de 500 mètres de là où on est. Et on entend le bruit de l'écluse qui coule. Et voilà, c'était difficile. On aurait cru un robinet, mais c'est un petit peu difficile. Ouais.
C'est ouvert à partir de quel âge? 5 ans, c'est ça
Oui, ça peut être même un petit peu moins. Mais à partir de 5 ans, voilà, les enfants, on peut leur donner un petit peu des consignes et se poser des questions, dessiner, parce qu'on fait des expériences, on va essayer de les représenter, de les dessiner.
Là, c'est des ateliers qui sont ouverts, genre on passe, on peut... aller les voir ou il faut s'inscrire? Comment ça se passe? Que, alors, tout à l'heure, on parlait des comment ça s'appelle des croisières, où les croisières, il faut s'inscrire. D'ailleurs, dépêchez-vous de vous inscrire, parce que je sais qu'il ne reste plus beaucoup de place, donc allez-y.
Et c'est ouvert en ligne, d'ailleurs. Les inscriptions, vous pouvez déjà réserver sur Internet, croisière sur Oise, ou vous tapez Escapade, CC2V ou Longueuil-Yenel, vous allez trouver le lien et vous pouvez réserver déjà votre...
Laurent a déjà réservé, notre journaliste à côté a déjà réservé.
C'est parfait, elle a très bien fait. Escapade.
Alors, pour vous, pour les ateliers, ça serait comment?
Ouais, pour nous, c'est la première fois qu'on fait la fête de la batellerie, donc je ne visualise pas exactement l'affluence qu'il y aura, mais disons que je suis aussi habitué pour avoir fait pas mal d'autres festivals et tout. C'est que non, ce sera en continu de toute façon, hein, dans ce genre de contexte, en extérieur et tout, c'est de l'initiation, de la découverte, et il y a plein de choses que chacun puisse essayer. Et puis bon, bah, s'il y a beaucoup trop de monde, on gérera, on fera un petit peu des groupes ou une attente, mais en général, on arrive à... En fait, on sera nombreux bénévoles, et puis il y a y a plusieurs choses à voir, donc c'est possible de tourner puis de revenir un peu plus tard s'il y a trop d'attentes.
Monsieur le maire, comment vous accueillez ces nouveaux habitants là qui arrivent? Alors, certains arrivent de Berlin, d'autres de Strasbourg, de Paris. Ils sont souvent attirés par la proximité avec évidemment Paris. Hein, c'est ce qui attire. Fait, ça va assez vite. On peut prendre le train. Alors, ils peuvent prendre en plus de ça le bateau. C'est encore plus simple, mais c'est moins rapide. C'est quoi cette nouvelle population? C'est il y a des nouveaux logements en plus qui se construisent.
Oui, il y a des nouveaux logements, mais bon, je pense que Sacha, lui, il a besoin d'espace sur l'eau. Bon, nous, par rapport à ce genre d'habitation, nous, on donne l'autorisation pour que les gens puissent se brancher sur les
compteurs, le réseau, et tout
ça. Mais après, c'est l'ONF qui décide ou pas. Surtout des gens comme Sacha, avec plein d'idées et nouvelles qui vont apporter, je pense, aux gamins, à la jeunesse. On les accueille les bras ouverts. Et puis, oui, nous, on a énormément de logements qui se sont construits. On a encore un permis de construire qui est sorti et pour une quarantaine de logements. Et puis, bien sûr, il y a le site du hameau d'Anel qui va évoluer dans les mois et années qui viennent, étant donné que sur le site de l'ERPR.
Ça permet de maintenir les écoles ouvertes, d'avoir un petit peu de médecins,
c'est aussi le but, bien entendu, parce que la population, nous, on a eu pas mal de lotissements, mais les gamins, ils grandissent. Aujourd'hui, ils sont au collège ou au lycée. Il faut du renouvellement pour les maternelles et les primaires.
Toi, Sergio, tu as grandi à Longueuil ?
Exactement. Et quand je n'ai plus habité à Longueuil, je suis venu y travailler. Ouais, je suis dans les idées.
Et tu vas y rester toute ta vie à Longueuil. Tu remplaceras monsieur le maire.
C'est pas le projet du tout. Et monsieur le maire, il est encore là pour l'instant. Il faut pas parler de remplacement. Il faut parler de présent ou effectivement d'avenir. Mais j'ai vu ce village changer. Ce dont tu parles, le changement de population, on va dire que c'est cyclique de toute façon. Je pense que Longueuil a connu avec les vagues d'immigration, avec les grosses entreprises, que ce soit Anglebert à l'époque, soit Saint-Gobain, ça recrutait directement
des Portugais, des Italiens.
Voilà, exactement. Et donc, il y avait une grosse mixité sociale dont je suis issu et je suis très très fier d'avoir grandi dans ce mélange-là. Et on le retrouve avec ces nouveaux lotissements. Tu parlais tout à l'heure des populations qui arrivaient de régions parisiennes et autres. Et on retrouve un petit peu cette mixité. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises,
non, monsieur Berdelet.
Mais c'est un peu ça. Et c'est rigolo, c'est que c'est toujours avec un nouvel essor industriel derrière. Bon, là, c'est pas forcément le canal, je pense, qui attire les gens, mais il y a toujours ça, c'est un renouvellement de population dû à l'économie, c'est fini de travailler là où on habite, etc. Mais on retrouve, et ça fait du bien de retrouver cette mixité, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent comme Sacha avec plein d'idées, il y a Nicolas et Alexia, on a d'autres gens qui arrivent et qui s'investissent aussi dans l'associatif au niveau de Longueuil, et qui apportent un nouvel élan, un nouveau souffle. Et moi, je suis content de voir le village où j'ai grandi évoluer comme ça, où tout le monde a sa place, où il y a des activités gratuites, ça c'est important de le dire, ou accessibles facilement. 2600 habitants, c'est pas une mégalopole, on est d'accord, mais s'ennuie, il y a toujours quelque chose à faire. Là, il y a eu un super projet de parc fitness et compagnie. Bon, voilà, il y a toujours un petit truc à faire. Moi, je suis très très content. C'est pas parce que je bosse pour Longueuil que je dis ça. Là, je parle vraiment en tant que
habitant,
que gamin longueuillois. Je suis très content de voir comment ça évolue, même si je suis nostalgique de certaines époques, mais ça, c'est l'âge qui passe, ça n'a rien voir. Mais non, c'est plutôt chouette. Et je vais refaire un petit clin d'œil, je vais revenir sur Sacha, à Valentin, parce que c'est Valentin aussi qui a fait la connexion entre Sacha et moi pour proposer ce projet-là. Donc c'est aussi la réussite de quelque chose qui a été mis en place à Longueuil avec cette politique de jeunesse, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à voir Sacha et toutes ces idées de Géo trouve tout. C'est absolument pas péjoratif quand je dis ça, mais en gros, quand il y a un problème, il suffit de l'expliquer, il va trouver une application mécanique ou numérique ou électronique à ça. Et voilà, donc c'est un cycle qui fonctionne, plutôt vertueux.
Là, si on ne vous retrouve pas, si on n'est pas présent ce week-end, du coup dimanche 2 juillet à la fête de la batellerie, est-ce qu'on pourra vous retrouver peut-être à la fête de la science? Vous allez participer au musée?
Alors la fête de la science, en fait, à côté de là, c'est la première fois que, en quelque sorte, le bateau s'ouvre au public. Et ce bateau-là, c'est nous qui tirons les ficelles, mais on va être nombreux. Il y a aussi un marinier donc qui va venir nous aider à le naviguer. Moi, je suis encore en apprentissage et j'ai encore envie d'apprendre.
Est-ce que tu as un A derrière ta péniche?
Je suis en train d'essayer de le peindre, mais voilà, pour qu'on puisse le voir de loin. Tous les lettrages sur les bateaux doivent être
Ah oui, j'imagine. Ouais, ouais, ouais.
Et ce que je disais, c'est que du coup, à côté de ça, moi, j'ai mon activité personnelle. J'ai aussi une association qui fonctionnait déjà, maintenant, je peux le dire, à terre, voilà, comme on dit chez les Marigny. Et en fait, du coup, bah, je fais... j'ai un projet qui s'appelle l'Atelier de Sacha. Enfin, on peut me trouver comme ça aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et je... Comment dire, je fais la fête de la science chaque année, donc là, à la Cité des Sciences, à la Villette, ce sera en octobre, et puis d'autres dates dans les médiathèques, enfin ça c'est sur mon, voilà, sur les réseaux sociaux, sur mon site, on trouve un peu les dates. Et puis bah, pour le bateau, bah, là c'est notre baptême, je suis très content aussi, parce que c'était pas très loin, et puis c'était vraiment, ça nous permet, enfin, tout le monde peut y trouver son compte, mais c'est que, voilà, on avait cette occasion, on aurait presque pu l'emmener à la main, comme on disait tout à l'heure, quand les bateaux étaient allés, oui. Ils n'avaient pas de moteur. Ils étaient tirés par des hommes, par des chevaux, par des...
Par des femmes.
Oui, par tout le monde.
Par des vaches, je crois, en plus, aussi.
Ah, c'est ouais, possible.
Je crois qu'il y avait aussi des vaches.
Il y avait des locomotives électriques.
Oui, sur Longueuil, oui.
Voilà.
Et des trolleys qui tiraient de... Ils partaient de l'écluse de Longueuil jusqu'à l'écluse de Cambronne.
Ouais, le but, c'était juste de déplacer des grosses marchandises, quoi. Enfin, voilà, des choses lourdes.
C'est ça.
Et on n'a pas parlé du nom du bateau, le Kiev. Alors, vous avez un nom à consonance justement de l'Est. C'est un choix spécial. C'est le nom ancien du bateau ou c'est le nouveau nom du bateau? Est-ce que vous l'avez renommé, le bateau?
Alors, effectivement, non, mais c'est un peu un hasard. Moi, je suis en fait d'origine ukrainienne. Et comment dire, quand on est tombé sur ce bateau, il y a eu ce nom, Kiev. Et puis, ben, pour moi, je l'ai un petit peu vu comme un signe ou comme... Enfin, c'est-à-dire que comme on arrive, on ne savait pas se décider, parce que c'est difficile hein, de se lancer, de savoir. Après, ça change toute une vie hein, de s'engager dans un projet comme ça. Eh bien, on est allé voir d'autres bateaux. Et en fait, le marinier ou l'histoire du bateau, les couleurs, le nom, donc on dit la devise d'ailleurs pour un bateau, eh bien, sont des choses qui peuvent influencer, qui donnent un peu une impression. Et en fait, on est allé voir d'autres bateaux. Et on s'est allé jusqu'à Dunkerque, on est allé voir plein de bateaux. Mais au final, on est revenu sur notre première coup de foudre. Enfin, et on est revenu sur le Kiev. Donc, ce Kiev... a été nommé comme ça à l'origine et il a été construit à Strasbourg où je suis né.
La boucle est bouclée.
Voilà. Voilà. C'est même plus un signe.
Donc en fait, on n'achète pas un bateau pour la cuisine aménagée, on achète un bateau pour l'histoire du bateau en fait. C'est ça.
Un petit peu, ouais, non, mais c'est, il transporte avec lui une histoire. Et justement, j'ai les documents et puis du coup, ce bateau était un petit. Enfin, c'est aussi les mariniers qui me racontent les histoires en fait. Il y a un forum sur internet qui répertorie.
Tous les bateaux.
Tous les bateaux, voilà, c'est impressionnant. Un forum comme ça, un peu à l'ancienne. Et en fait, ce bateau, il a des pages, ça fait déjà des années que les gens le prennent en photo, écrivent des histoires, et donc j'ai pu apprendre des choses de cette façon.
C'est vrai que les réseaux sociaux, ça marche. Hein. J'ai vu qu'il y avait aussi des forums d'entraide pour les mariniers, en tout cas pour les plaisanciers, pour se dire, est-ce qu'on peut naviguer ici? Comment ça se passe pour, si on veut sur la vieille Somme, ce genre de choses? Est-ce qu'on peut aller, ce que je ne savais pas, c'est que les péniches pouvaient aller sur les mers aussi, pouvaient longer les côtes pour rejoindre d'autres canaux. Enfin voilà, il y a aussi une vie sur Internet. On va écouter un extrait de la programmation. C'est une nouveauté, c'est le nouvel album d'Arthur H et on écoute le titre La Route et on vous rappelle qu'on parle de la fête des bateliers et ça se déroule ce dimanche, c'est le dimanche 2 juillet et c'est à partir de quelle heure c'est l'ouverture ?
Alors le matin, les festivités 8h30. Populaires à partir de, voilà, rassemblement 8h30 sur la place de la mairie, ensuite le cortège suivra, il y a des filets de fanfare, etc. Ça c'est pour le côté traditionnel, passage des écluses avec les klaxons, les péniches pavoisées à peu près aux alentours de 10h, le pardon lui-même avec la messe célébrée sur le bateau chapelle à 10h30, midi, revue des drapeaux, vin d'honneur offert par, et je le connais par cœur, t'as vu?
C'est incroyable, il a rien devant les yeux, c'est incroyable.
Offert par l'amicale du musée de Longueuil-Yanel et à partir de midi, c'est ouverture des stands de restaurants et de la fête populaire avec orgue de barbarie, accordéon et on enchaîne sur un après-midi festif jusque 19h.
Il n'y a pas de joutes cette année, les jouteurs sont pas là?
On avait oublié de l'en parler, oui, c'est les joutes, comme d'habitude.
Bah, on en parle juste après, on écoute Arthur H. Parfait. Et on parlera des joutes juste après, c'est parti.
Tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, ville. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît, puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Tout de suite, dans l'instant, tu vis. Depuis toujours, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu dois vivre, vis-le. Qui te porte, laisse-le t'emmener vers ton désir. Tu es la route, la poussière, le plaisir. Ce que tu veux vivre, tu le vis.
Cinquième édition de Branchez Ciné, le festival de cinéma de l'Office National des Forêts, c'est du 29 juin au 8 juillet. En forêt de Compiègne, venez assister gratuitement à la projection du film Le Livre de la Jungle de Jon Favreau.
Toi, tu es un petit homme qui veut vivre dans la jungle.
Oui, qui vous l'a dit?
Petit, j'ai des oreilles, de bonnes oreilles. Je suis le seul qui puisse te protéger.
Rendez-vous samedi 1er juillet dès 19h pour des animations ludiques, une initiation à l'acrobranche, une balade commentée et même un prélude musical avant la projection à 22h. Le Livre de la Jungle, samedi 1er juillet en forêt de Compiègne. Accès gratuit, food truck sur place. Retrouvez toutes les informations sur branche-ciné.onf.fr.
S'il arrive malheur à Mowgli, je ne me le pardonnerai jamais.
Voilà, donc le samedi, vous serez en forêt de Compiègne pour aller voir du cinéma. Et puis bah, le dimanche, rendez-vous sur l'eau cette fois avec la VNF. Hein, on n'est pas à l'ENF, mais à la VNF. Avec Londeguenel, la fête de la batellerie. C'est le 36e pardon. Ça commence très tôt le matin. Ça finit très tard le soir avec des concerts. C'est à partir de 18h les concerts, Sergio, si je ne dis pas de bêtises.
À partir de 14h.
D'accord.
À partir de 14h avec le premier concert en mode rock avec Particult. Après, on aura le Funky Jazz Gang qui viendra reprendre des standards variétés françaises et internationales. nationale avec des gros cuivres, c'est très sympa, c'est en semi-déambulation, c'est-à-dire qu'il se déplace, il joue, il s'arrête, il rejoue, etc. Et le duo années 80, c'est son nom, duo années 80, c'est deux musiciens qui ont accompagné pas mal de stars des années 80, qui ont fait un petit show très efficace, qui finiront en musique de 17h à 19h, et entre-temps, il y aura plein d'animations dans la rue, bien sûr, mais pour les concerts, c'est ça.
La seule chose qui est payante, c'est les croisières à des tarifs préférentiels, 6€ par personne, ou 4€ pour les enfants, c'est la seule chose, après, les boissons et la nourriture qui seront en vente.
Bien sûr, ouais,
qui sont. Et sinon, tout est gratuit.
Sinon, tous les spectacles sont gratuits, les déambulations sont gratuites, pour les petits également, donc les activités dont on parlait tout à l'heure avec Sacha sont gratuites, le maquillage pour les gamins, c'est gratuit, etc., etc., etc. Et ça, c'est une volonté politique aussi de pouvoir proposer des spectacles gratuits pour démocratiser aussi autant que possible les activités culturelles.
On se gare où quand on arrive à Longueuil pour aller dans cette rue ?
Il y a un parking qui est très, très vite plein et après on se gare
là où on peut.
Là où on peut, mais bon, il y a de la place. Et ce jour-là, on est quand même conciliant. Il faut seulement éviter de se mettre devant les portes cochères pour que les gens puissent sortir de chez eux. Quand même.
Ouais, et puis sur les bornes incendies, j'imagine.
Oui, en plus
aussi.
Là, Sacha, on va te retrouver donc ce week-end, enfin ce dimanche à la fête de la Batellerie. Ensuite, tu nous as parlé de la fête de la science. Redonne-nous l'adresse du site où on peut te retrouver, c'est les réseaux sociaux.
Oui, alors il y a un site, c'est l'atelierdesacha.fr. Donc Sacha, c'est avec CHA. Parce qu'il y a un autre atelier de Sacha, mais c'est un coiffeur à Paris.
Rien à voir.
La station curieuse, c'était déjà pris. L'atelier de Sacha, ouais. Oh.
Non, mais ça c'est donc mes ateliers, c'est mon métier, hein, la médiation scientifique.
Et il y a plein de tutos sympas aussi, je me permets, ouais, Sacha, de compléter. Tu as mis des tutos gratuitement en ligne, hein, c'est important de le dire, parce que souvent on voit des tutos et il faut payer, etc. Mais il y a plein de choses à faire. Oui. Pour découvrir les ateliers, ta création et ta créativité surtout.
Ouais, bah parce que c'est cette culture de do it yourself, hein, et de faire aussi avec beaucoup d'expériences qu'on fait avec des matériaux de récup. Il y a plein de choses pour lesquelles on n'est pas du tout obligé de racheter de la matière neuve. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui sont faites à partir d'éléments de récupération, des bouteilles en plastique, des bouchons en liège, des expériences.
Des chutes de tubes de PVC. Voilà, des ventilos de PC qui partaient tout droit à la déchetterie, des gants en latex, etc. C'est la caverne d'Ali Baba.
Alors les gants en latex et le PVC, c'est parce que c'est cette pratique qui s'appelle la lutherie sauvage. C'est fabriquer des instruments rapidement, voilà, avec une scie, comment dire, une perceuse et sur l'établi, on peut fabriquer une flûte ou un tuba qui peut sonner très bien. Alors je vais montrer la fabrication de tuba PVC qu'on peut faire avec des tuyaux qu'on peut trouver en magasin de bricolage ou bien souvent des chutes de chantier. Et en fait, ces tubas, j'appelle les tubas parce que ça sonne, voilà, un peu comme un instrument d'orchestre, ça sonne très bien d'ailleurs, ça fait un très bon son, ou un saxophone quasiment. Mais en fait, c'est exactement le système d'un klaxon ou d'une corne de bateau. En fait, c'est-à-dire qu'on souffle dedans, mais si on envoie de la pression, ça va sonner très fort et ça peut avoir autant de puissance. Voilà, c'est proportionnel au souffle, à l'air qu'on enverra. Et là, les gens pourront voir comment on fabrique ça.
Il faut absolument qu'on te présente les gens du bord de l'eau à Marny-les-Compiègne, hein, qui est un tiers-lieu culturel également. Tu verras qu'ils foisonnent d'idées un peu comme ça. D'ailleurs, si ce soir, vous ne savez pas quoi faire puisqu'on est jeudi, le jeudi, c'est jeudi du bord de l'eau. Ce soir, il y a une proposition culturelle à partir de 18h, donc allez-y. Souvent, il faut adhérer 1€ pour passer la soirée là-bas. Il y a à boire et à manger. Alors chaque semaine, il y a quelque chose de différent. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir ce soir, mais allez-y, n'hésitez surtout pas. C'est presque la fin de cette émission. Sergio, toi qui es bon en communication, quelles sont les choses qu'il faut absolument ne pas louper si tu devais garder un ou deux événements en dehors de ce que Sacha propose, puisqu'il est là.
Voilà, donc j'allais dire la station curieuse, effectivement, mais ça, on en a parlé en long, en large et en travers. Je pense qu'il ne faut pas rater, alors c'est vraiment très symbolique à Longueuil, les joutes nautiques. On en parle, donc c'est deux bateaux qui se croisent avec deux personnes montées sur des tabagnons, des petites plateformes. Le but, faire tomber l'autre à l'eau, tout simplement. Donc c'est pas un sport violent pour autant, c'est physique. Ça rappelle effectivement les joutes chevaleresques. Ça, c'est à découvrir. Ça draine énormément de monde. Je pense que monsieur le maire sera d'accord avec moi pour dire qu'à ce moment-là, on a un peu l'impression que la fête se met en stand-by sur un petit moment. Et justement, à ce moment-là, on propose pas énormément d'activités à côté pour que l'attention puisse se porter sur ça. Et après, c'est dur d'en sortir un seul, mais je pense que c'est l'ambiance de la fête dans son ensemble et de voir les petits, les grands réunis se balader, de voir les couleurs sur les rues et que le temps d'un instant, Longueuil reprenne son éclat, on va dire sa vivacité d'antan, ça peut être très chouette.
Rend les gens heureux dans cette période difficile.
Là, la décoration est déjà, vous êtes en train de faire les pavoisements de la rue. Pavoisement, c'est
là,
dur à dire.
Ils vont monter tous les barnums, tout ça là. Dans la route va être barrée à partir de vendredi après-midi jusqu'au lundi matin.
Alors c'est vrai que c'est une question que j'ai toujours posée. Comment on vit dans un village où on se dit qu'il va y avoir des inondations? Comment parce qu'à chaque fois, je suis à Longueuil, j'ai dormi.
Avec des bottes.
Non, mais comment on prévoit, même en tant que maire, c'est quoi? Il y a un système pour vous êtes prévenu en amont. Les
habitants on est prévenu. C'est sûr qu'il y a des échelles. Et puis on est prévenu par VNF. Maintenant, malheureusement, on a l'habitude. On a la culture de l'inondation, c'est dramatique de dire ça. Et donc on prévient avant, on prévient les gens, et après on monte des passerelles. C'est beaucoup d'organisation, mais malgré que les gens, parce que c'est quand même aussi pour certains beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps, c'est quand même, il y a eu 93, 95, après on a eu 2001, 2003, c'est quand même assez traumatisant pour les gens. Nous, on essaye de faire en sorte...
On s'y habitue jamais?
Non, on s'habitue pas.
Mais c'est vrai que j'ai dormi récemment, justement chez la coordinatrice du bord de l'eau qui habitait à Longueuil-Anel. Alors évidemment, le matin, magnifique, on serait cru dans un tableau de peinture, tout ça, il y avait la brume, etc. Mais je me suis dit, moi, ça me ferait flipper de dormir au bord d'un canal et puis de me dire que le matin, ma voiture peut être absorbée. Ou hormis encore.
Non, ça monte doucement par rapport à des inondations dans le sud ou tout ça, où c'est là des coulées. Et y a des... On a eu des coulées de boue, mais pas de ce côté-là, vous voyez. Oui, nous, on est au fond de vallée, donc en plus, on a droit à tout. Non, ça monte. On sait que si ça monte à Condran, on sait qu'avec la vague, on aura ça dans 48 heures. Donc on prévient, justement, les gens sont prévenus, les pompiers sont là aussi.
Condran, c'est Verchonny, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc on a l'habitude, Condran, Sampigny, et donc on sait que nous, ça va arriver dans 24 heures ou 48 heures. Donc on prévient les gens, on monte les meubles, on a beau dire, les gens ont beau être habitués. C'est ce que je pense que. Aujourd'hui, et je suis content, je touche du bois, il y a un moment qu'il n'y en a pas eu, il y a eu des nouveaux habitants qui sont arrivés. Et les gens oublient vite qu'il y a eu des inondations. Et donc, pour les nouveaux, c'est vrai que des fois, ça peut être encore plus traumatisant. Et des fois, parce qu'on a un quartier, le quartier Beau-Rivage, qui est complètement isolé. Il n'est pas inondé, mais il est isolé. Donc, il faut mettre en place des barques. Les barques de jouteurs, du matin au soir pour permettre aux gens, aux enfants d'aller à l'école, aux gens d'aller au travail ou d'aller chez les médecins et tout ça. Donc c'est compliqué à gérer, mais vous savez, malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, on a cette culture.
Ouais, et puis la contrepartie de vivre au bord de l'eau, la joie du bord de l'eau.
Comme vous dites, c'est super, hein, quand on est au Jean-Bert à la terrasse, on se croirait en vacances. Sauf que en 93 et 95, l'eau est arrivée au pied du Jean-Bert.
D'accord.
Vous voyez comment la différence de niveau. Hein.
Ouais. Alors justement, pour les habitants qui ne l'ont jamais vu, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que les maisons, elles sont bâties, du coup, il y a des marches qui montent assez haut pour les entrées ne sont pas à hauteur de trottoir.
Quoi. Non, moi je suis né là-bas, je me rappelle qu'il y a j'ai des copains qui venaient en barque jusqu'aux écluses pour venir à l'école. Quoi. Les inondations, c'est la nature. Donc moi, ce que j'espère, c'est que l'arrivée du canal Seine-Nord-Europe va faire en sorte qu'on va mieux maîtriser justement les niveaux d'eau. C'est ça aussi. Quoi. Ça n'empêchera, je pense qu'on ne peut pas empêcher les inondations. Mais avec l'arrivée du canal Seine-Nord, je pense qu'on peut faire baisser les niveaux et surtout les gérer mieux.
Déjà, les aménagements qui ont été faits, notamment dans le Compiénois, il y a eu un bassin de rétention, ce genre de choses, ça a un peu impacté chez vous
ou pas? Nous, le bassin de Chevrier, Longueuil Sainte-Marie, c'est après. Nous, c'est plutôt au-dessus de Guise, Voisy. Là, ça a déjà joué. Hein. Mais il y a aussi, moi je peux en parler parce que j'étais conseiller régional à ce moment-là, on a financé une partie de tous les... On a aidé à l'installation de barrages tout le long de l'Oise, et ça permet, le Venette a été le dernier d'ailleurs, et maintenant, c'est plus facile pour VNF de gérer les hauteurs d'eau.
Et alors, je ne savais pas, c'est qu'un canal pouvait fuir.
Ah là là, le note il fuit beaucoup. Hein. Le note il fuit et je peux vous dire qu'on a déjà eu des bouts de route qui s'écroulent parce que avec le ravine, quand les péniches y passent, comme les pales-planches sont un peu pourries, donc l'eau elle monte, elle descend, puis à bout d'un moment, la route elle s'écroule. Quoi. Et là, c'est VNF ne paye pas, c'est la commune qui paye.
Donc
la réparation.
Après, ils refont des... C'est ça, en fait on refait comme de la route sous l'eau, le but c'est de reboucher le trou. Quoi.
Ah, il faut reboucher.
Ok, ça c'est aussi intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas.
C'est ça.
Quand tu passes devant.
Ce qui est intéressant aussi, parce qu'on est sur le sujet des inondations, on va avoir beaucoup de visiteurs qui ne se rendent pas compte. Jetez un coup d'œil du côté de l'embarcadère de l'Escapade. Il y a une toise avec les différents niveaux des inondations avec les années. Certains habitants avaient fait ça directement sur les logements, mais comme on aura des barnums installés devant, ce ne sera pas forcément visible. Et la CC2V a eu la bonne idée de faire ça à côté de l'Escapade. Et donc je crois que le plus haut. Bon, il y a les crues de 1910 aussi qui étaient assez extraordinaires. Ordinaire, on ne l'a pas connu, enfin je ne crois pas l'avoir connu, mais au moins 93-95 et c'était déjà des niveaux très très élevés puisque la liste, donc la fameuse, vous verrez, il y a une main courante blanche tout le long, on ne la voyait plus dès le début de l'avenue de la Canonnière par exemple.
Ouais, c'est les crues centenales tous les 100 ans.
En théorie.
Qui est revenu au bout de 12 mois.
Et d'ailleurs, on peut aussi voir une simulation des crues dans la cité des Bateliers, dans le musée, où il y a un simulateur de crues. Alors peut-être que Sacha, tu as peut-être été le voir, le simulateur.
Ah oui, avec une sorte de système de réalité augmentée.
Ouais, c'est ça, une maquette.
Le système existe dans d'autres musées pour complètement d'autres phénomènes. Mais là, pour le phénomène des crues, ça fonctionne très bien. Et puis c'est très pédagogique, intéressant.
Et en réalité augmentée aussi, il y aura la société du canal qui sera présente avec des casques de réalité virtuelle pour présenter le tracé du canal justement sur la portion qui nous intéresse entre Noyon et Compiègne. Ils seront présents.
C'est quoi la l'horizon de ce canal chez vous?
5 ans. Les travaux ont commencé à Montbac, hein, c'est l'écluse qui a commencé. On a déjà détourné le cours de la rivière, hein, parce que il fallait, sinon ça gênait pour l'écluse. Je pense que les coups de pioche chez nous vont démarrer l'année prochaine et il y en a pour 4-5 ans de travaux.
Merci à tous les trois d'être venus dans nos studios pour parler de la fête de la batellerie. Ça, on rappelle, c'est le 2 juillet 2023 à Longueuil-Annel. C'est gratuit. Allez-y. Toutes les informations, on la mettra sur la page Facebook de la radio avec le podcast. Et d'ailleurs, si vous voulez dormir à Longueuil-Annel, c'est possible. Il y a des péniches qui font du Airbnb. Hein,
tout à fait.
Vous savez pas quoi faire. Et, alors, j'imagine que là, c'est plein pour ce week-end. Mais bon, c'est toujours agréable de faire une petite nuit.
De découvrir ça.
Voilà,
ouais.
Absolument. Et du coup, Sacha, tu veux rappeler le nom? Ah, bien sûr, le nom de la péniche.
Oui, non, c'est
la station curieuse.
Oui, comme c'est le projet qu'on lance, qui est très récent quand même. Donc je viens de créer une page Instagram, La Station Curieuse, et puis aussi une page Facebook.
Et j'ai été le premier follower. J'ai été le premier follower.
Exactement. Mais ça servira aussi pour suivre le bateau dans les prochains événements. Et puis on va proposer des stages aussi où les gens pourront venir nous accompagner ou faire avec nous, avec notre association, pour apprendre toutes sortes de choses liées au bateau, liées au design, à la médiation scientifique.
Mettra les infos également sur la page Facebook. Merci à tous. On rappelle que ce week-end, il y aura également la 7e nuit des concerts qui va se dérouler à Port-Quéricourt. Et bon week-end. Avec les Fatal Picard. Et également, il y a toujours le Festival des Forêts qui est en cours. On vous souhaite une bonne journée, bon courage. Et puis, si vous êtes en vacances,
bonnes vacances.
Bonnes vacances.
Merci.
Quando ela dança no espaço, meu corpo perde o cansaço, meu lábio treme e sorri. Quando ela troca de passo, meu peito perde o compasso, meus olhos sabem onde ir. Sair do tempo, sair, cair, meu samba cair. Quando ela diz que me disse, quando ela finge ser minha, quase me deixo levar. Quando ela quer mais um trago, quando ela troca meu copo, eu vejo a vida passar. Sair do tempo, sair, cair, meu samba cair. Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer. Eu não quero discussão, ela sabe o que ela quer.
Quando ela sobe no salto, desce do morro do asfalto, eu deixo um samba no ar. Na madrugada me enrola cantarolando cartola na mesa de um outro bar. Saiu do tempo, saiu, caiu, meu samba caiu. Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer. Meu corpo pede o cansaço, meu lábio treme e sorri.
Cansaço.
Quando ela troca de passo, meu peito pede o compasso, meus olhos sabem onde ir.
Compasso.
Quando ela diz que me disse, quando ela finge ser minha, quase me deixo levar. Quando ela quer mais um trago, quando ela troca meu copo, eu vejo a vida passar. Sair. Decisão, ela sabe o que é.